Bienvenue aux Imaginales 2015 et on va débuter cette rencontre autour du prix Imaginal des lycéens avec trois des auteurs qui étaient en lice pour ce prix. Fabien Cerutti qui l'a obtenu sera présent cet après-midi pour la remise. Mais nous allons nous intéresser avec Karen Rosenfeld, avec Estelle Faye et avec Stéphane Plateau à cette expérience qu'ils ont vécue à travers ces nominations et cette situation. Je veux dire que en plus, vous aviez vraiment une très belle sélection, puisqu'il se trouve que et Estelle et Stéphane sont en plus primés par le jury professionnel aux Imaginales cette année. Estelle pour le roman Jeunesse, et en plus, elle est coup de cœur du festival, précisons-le. Et puis Stéphane qui, lui, a le prix francophone du roman de fantasy cette année. Donc, vous aviez vraiment une très, très belle sélection sur quoi... vous écharpez, hein, parce que j'imagine qu'encore une fois, il y a eu des débats très, très durs. On va débuter avec Estelle. On lui passe un micro. Alors Estelle, ça fait quand même beaucoup d'émotions, tout ça, parce que...
Oui.
Il y a eu, j'imagine chronologiquement, ça a été la première information, la nomination pour le prix des lycéens.
Alors c'était ça ou le coup de cœur, franchement je me souviens plus parce que tout se mélange un peu dans ma tête pour les dates, voilà, mais en tout cas ça, tout ça, ça fait très plaisir.
Donc pour La Voix des Oracles, pour le premier tome de cette série, avec un univers sur lequel on va revenir évidemment, mais d'abord, première réaction, ça a été quoi justement de se dire tiens je vais être confronté à un lectorat particulier qui est celui des lycéens?
Alors déjà le lectorat justement... Donc des lycéens, le lectorat adolescent, c'est un des lectorats pour lequel j'adore écrire. Et notamment parce que quand je les croise ou je vous croise en salon, en festival ou sur Internet, il y a une immédiateté des réactions. C'est-à-dire par moment, un lecteur adulte, il va dire « Oui, bon, dans ce livre, ça, j'ai pas trop accroché, mais là, le style est pas mal ou les idées sont vraiment top. » Et j'ai l'impression, en tout cas, après, vous me direz si je me trompe, mais que... avant tout, dans le lecteur ado, il y a une immédiateté dont on est pris par l'histoire ou on n'est pas pris par l'histoire. Et ça, c'est très important. Pour un livre, finalement, c'est ça l'essentiel. C'est d'entraîner le lecteur dans une histoire au-delà d'avoir des idées intelligentes ou d'avoir un style superbe. C'est avant tout faire vivre des personnages et que vraiment les lecteurs puissent les réapproprier. Et donc, forcément, être sur la liste du prix des lycéens, pour ça, ça faisait super plaisir parce que c'était vraiment ce lectorat-là. Je me suis dit que le roman allait rencontrer.
Et justement, la rencontre directe, alors je ne parle pas forcément uniquement en salon, mais peut-être aller les rencontrer dans leur classe ou autre, c'est une nouvelle expérience pour vous?
Alors après, la rencontre hors salon et hors Internet avec des lycéens vraiment marqués comme tels, c'est-à-dire pas des ados en salon, ça c'est tout nouveau, je l'ai fait pour la première fois ce matin à 9h, j'espère que je n'ai pas trop bafouillé. Et voilà, en tout cas, c'était une expérience très sympathique de mon côté, j'espère que pour vous aussi.
Karina, par contre, vous avez plus l'habitude, vous, je crois, des rencontres, en tout cas de ce que je vois sur les réseaux sociaux, vous êtes par Mons et par Vaux en permanence. Là aussi, c'est une expérience quand même particulière, justement, de rencontrer ce public des lycéens qui travaillent sur le prix Imaginal.
Alors, je n'ai pas fait de rencontre à part ce matin à 10h. Il n'y avait pas de rencontre organisée en amont. Alors, je ne sais pas si c'est juste cette année ou si c'est habituel. Là, toutes les rencontres que j'ai pu faire cette année étaient pour un autre roman sur d'autres sélections de prix, puisque j'ai eu une quinzaine de sélections de prix cette année pour Les Sentinelles du Futur, qui est un roman de SF chez Syros. Et donc, c'est surtout devant des collégiens, là. Donc, ce matin, j'ai pu me frotter aux lycéens pour la première fois pour la Symphonie des Abysses. Que ce soit collégien ou lycéen, moi, je suis d'accord avec Estelle sur la spontanéité et la sincérité du lectorat jeunesse. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Les rencontres, j'adore ça. Vraiment, déjà, ça nous sort un peu de chez nous parce que ça peut être un métier où on parle à notre écran toute la journée quand même, ou à nos chats. Donc, c'est un peu limité au niveau des échanges. Donc, pouvoir rencontrer des lecteurs, c'est toujours passionnant. C'est aussi quelque chose que j'aurais aimé vivre, moi, en tant qu'étudiante, jeune, collégienne ou lycéenne, peu importe. Ça se faisait pas à l'époque. Moi, quand j'étais au collège et au lycée, les auteurs, c'était des gens morts, quoi. Donc, c'est pas super motivant, ça donne pas super envie comme plan de carrière. Donc, je trouve que pouvoir avoir cette opportunité, aujourd'hui, ça se fait de plus en plus couramment, que ce soit dans le cadre des prix ou simplement les initiatives des établissements qui invitent des auteurs. Et je trouve que c'est une chance pour ces jeunes de rencontrer des auteurs quels qu'ils soient pour leur montrer que la littérature, c'est pas des auteurs morts, c'est aussi des auteurs vivants. C'est aussi des gens qui sont jeunes, qui font autre chose, qui peuvent partager des passions avec eux aussi et pouvoir les amener sur ce terrain plus humain. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de génial. Donc moi, je suis toujours ravie de pouvoir les rencontrer, quel que soit le cadre dans lequel ça se passe.
Et pour l'écrivain que vous êtes, c'est aussi un enrichissement. Ça change un petit peu votre manière d'envisager l'écriture ou pas du tout ?
Alors, pas dans le sens où c'est pas parce que j'ai rencontré des tas de lecteurs que je me dis je vais créer dans ma tête un lecteur type pour lequel je vais écrire. Parce que ce serait complètement faux, il n'y a pas de lecteur type. Au contraire, de rencontrer les lecteurs, ça prouve à quel point ils sont différents, diversifiés. Et donc, ça va justement encourager à se dire il ne faut surtout pas que j'écrive pour un lecteur type, il faut que je continue à écrire d'abord tel que moi j'ai envie de l'écrire, en sachant que ça peut plaire à certains et pas plaire à d'autres. Mais surtout pas se créer un archétype du lecteur dans la tête, et, parce que sinon on est sûr de se planter. Par contre, aller à la rencontre de cette diversité et de savoir pourquoi ils ont aimé, pourquoi ils n'ont pas aimé un roman, je trouve que c'est enrichissant. Non pas pour nous aider à corriger, parce que comme je dis, si on commence à écouter tous les avis, on n'écrit plus, hein, parce qu'on voudrait faire plaisir à tout le monde et c'est pas possible. Mais de savoir que comment le lecteur a vécu la lecture du livre, comment il a appréhendé l'histoire, les personnages, en positif ou en négatif, c'est toujours un enrichissement pour l'auteur, je pense.
Stéphane Plateau, vous aussi, alors peut-être des trois romans que nous avons là et qui sont en lice, c'est celui qui est peut-être le plus adulte, on va dire, en tout cas ouvertement adulte, mais j'imagine que c'est quand même un roman qui a touché ce public de lycéens. Quelle était votre réaction justement quand vous avez appris la nomination pour le prix des lycéens ?
Bah justement, j'étais complètement surpris parce que j'avais jamais conçu ça comme un roman jeunesse. J'avais d'ailleurs pas conçu ça comme un roman pour qui que ce soit. Moi, j'ai écrit ce que je voulais moi lire, enfin le genre de choses que moi j'avais envie de lire. Mais c'est vrai que en y réfléchissant, je voyais ça comme le type de fantasy que quelqu'un qui a atteint 25 ou 30 ans, qui a déjà lu beaucoup de fantasy dans sa jeunesse, a envie de lire quelque chose qui sort des sentiers battus et qui parle de thématiques qui sont plus adultes, qui parle de parcours de vie, qui parle, etc. Donc j'étais vraiment très surpris, surtout que bon, c'est aussi un livre qui est assez épais, qui est assez lent dans le rythme, dans lequel il y a pas mal de travail sur le style, ce qui peut rebuter un jeune lecteur. Ceci dit, si vous l'avez aimé, je vous félicite.
Vous avez eu des retours justement un peu avec ce public là
Mais pas encore en fait, c'est un peu l'occasion. Donc,
n'hésitez pas hein, tout à l'heure, une fois qu'on aura terminé, allez dire à Stéphane, en ayant la franchise qu'ont évoqué Estelle et Karina, allez lui dire ce que vous avez pensé de ce livre qui donc, on aura l'occasion évidemment d'en reparler par ailleurs, va obtenir le prix Imaginal du roman francophone cette année, avec un univers... là aussi très original, on n'est pas dans un univers médiéval tel qu'on peut le concevoir souvent quand on parle de fantasy, on est vraiment dans un univers qui lui-même est encore, même à la fin de ce premier tome, encore très mystérieux.
Mais on est dans un univers qui, au niveau technologique, correspond à la fin du XIVe siècle avec l'apparition des premières armes à poudre, avec l'armure de plate qui atteint son sommet. Mais on est dans un monde qui n'est pas uniquement européen, qui a de très fortes influences hindoues. Donc c'est vraiment un mélange de culture celtique, hindoue et de Moyen-Âge européen qui est assez particulier. C'est peut-être une des choses qui demande un effort aussi au lecteur, c'est qu'on n'est pas tout de suite dans un univers qu'on peut reconnaître, identifier, auquel on peut se raccrocher avec, en se basant sur ses cours d'histoire ou ce qu'on a lu ailleurs.
Et tout ça, ça donne un mélange assez étonnant, alors avec une histoire en plus à plusieurs niveaux, hein, avec une alternance entre deux récits et beaucoup d'interrogations. Là aussi, il y a vraiment quelque chose qui oblige le lecteur à être actif finalement.
Oui, c'est vrai, c'est un livre qu'il faut aller chercher. On ne va jamais souligner au trait rouge les sentiments des personnages en disant « il en éprouva une grande tristesse ». On va plutôt décrire une réaction, un regard fuyant ou quelque chose qu'il faudra interpréter. Je disais que je n'avais pas eu de réaction, c'est faux. En fait, j'ai eu un jeune qui m'a contacté sur Facebook pour me faire un retour de lecture.
Qui était bon ?
Qui était assez bon, oui. Ouais. Qui avait une ou deux remarques de longueur, justement. Donc, mais il ne savait plus où les placer.
Estelle Fay, on est... alors c'est intéressant parce que ce soit avec... Karina ou avec vous, on a une héroïne déjà au centre, ce qui n'est pas forcément si courant que ça. On a un personnage fort, on parle des mutations puisque c'est le thème cette année. On voit également son évolution déjà au cours de ce premier tome, hein. Elle n'est plus du tout la même personne à la fin du roman qu'au début. Et c'est une adolescente, donc ça veut dire aussi que ces jeunes ont pu peut-être s'identifier plus facilement à ce personnage de Tia.
Disons, après, je ne sais pas, pour l'identification, je pense que je vais rejoindre un peu certaines choses qu'a dit Karina tout à l'heure. Je n'ai pas un jeune type dans la tête et en me disant, voilà, je vais faire tel personnage parce qu'il va s'identifier à mort, donc ça va marcher. C'est beaucoup plus, j'ai eu l'image de ce personnage dans la tête, il se trouve qu'elle avait 16 ans, et de jouer avec un personnage adolescent, ça permet mine de rien de prendre un personnage à ce moment de la vie où elle va vraiment se construire, se transformer. Ça permet aussi de parler de cette époque de la vie par laquelle on est tous passés. Donc c'est quelque chose qui est très universel finalement, qui dépasse le cadre juste de l'adolescence, qui est vraiment comment on doit parfois abandonner aussi une part des certitudes qu'on avait dans l'enfance, comment on doit parfois presque détruire une part de son enfance pour construire quelqu'un de nouveau, pour construire la personne qu'on va devenir, qu'on veut devenir ou qu'on ne veut pas devenir aussi parfois, et puis qu'on va finir par accepter quand même. Et c'est une période absolument passionnante pour un roman. Disons, un de mes professeurs en scénario, école de scénario, voilà, disait quelque chose comme une bonne histoire, c'est un personnage, au début il est dans un état A, et puis à la fin il est dans un état A prime. Et une histoire vraiment passionnante, c'est un personnage, au début il est dans un état A, et puis à la fin il est dans un état Z. Voilà. Donc ça, l'état Z, ça sera la fin de tous les tomes, mais c'est vraiment ça, c'est l'idée d'avoir un personnage qui va vraiment complètement évoluer, complètement se transformer au fil de l'histoire. Et pour ça, un héros adolescent, c'est parfait. Après, le fait que ça soit une héroïne, heureusement, il y en a de plus en plus. Pourquoi heureusement ? Ben parce qu'après tout, tous les personnages ont droit à l'existence, que ce soit voilà, personnage masculin, féminin. Il se trouve que Tia est arrivée en tant qu'héroïne, avec sa force, avec aussi les questions que ça pose. Mine de rien, le monde dans lequel elle est beaucoup plus dur pour une fille de 16 ans qui n'est ni mariée ni nonne. Donc en plus, ça fait une histoire avec plus d'épreuves, plus de difficultés, et ça, c'est toujours bien pour un personnage.
Sachant que quand on la rencontre, elle est quand même, on va dire, sur le plan matériel, elle n'est pas spécialement à plaindre. Mais par contre, elle s'ennuie férocement quand même.
Enfin, elle n'est pas spécialement à plaindre, oui et non, parce qu'au début, elle est recluse au fin fond d'une villa des forêts d'Aquitaine. Donc on est au 5e siècle, à la fin de l'Empire romain. Elle est la fille d'un ancien grand général d'Empire. Et elle devrait faire partie de la bonne société romaine, simplement elle a un don, qui est un don d'oracle, elle a des visions du futur. Et ce don-là, quelques siècles plus tôt, aurait fait d'elle, là pour le coup, quelqu'un de vraiment pas à plaindre, et quelqu'un donc l'un des plus importants de la société. Simplement, l'Empire est devenu chrétien, et les oracles, on en fait du petit bois pour le feu. Donc quand même, elle vit avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est-à-dire si quelqu'un d'autre que son père découvre son secret, elle peut mourir, et d'une façon absolument pas rigolote. Donc elle vit quand même avec ça, elle vit en n'ayant aucun espoir au départ de sortir de cette immense solitude dans laquelle elle est. Finalement, il y a son père qui vient la voir de temps à autre, mais c'est tout, et puis quelques domestiques, mais avec lesquels déjà elle ne va pas interagir à la base parce que socialement on ne lui a pas appris, et puis avec lesquels de toute manière elle ne peut pas agir parce qu'elle ne peut surtout pas leur dévoiler son secret. Donc elle est dans une immense solitude, et même son état matériel n'est pas si enviable que ça, parce que finalement, si son père meurt, elle se retrouve avec comme seule famille un frère qui absolument ne l'aime pas et qui donc essaiera de la mettre à la rue le plus vite possible. Et sachant qu'en plus, en tant que femme qui sait lire, écrire, mais rien faire d'autre, elle n'a pas beaucoup de moyens de gagner sa vie par elle-même.
On se rend vite compte, effectivement, qu'après, une fois qu'elle quitte le cocon, elle découvre un monde... complet, nouveau.
Voilà, elle découvre un monde beaucoup plus complexe aussi que ce à quoi elle s'attendait, mais en même temps, elle va aussi découvrir dans ces épreuves-là des forces inattendues, et puis finalement, elle va se découvrir qu'elle est capable de beaucoup plus de choses que ce qu'elle aurait cru, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se découvrir des forces insoupçonnées.
Alors, on retrouve des thématiques vraiment communes avec la Symphonie des Abysses, puisque là aussi, on a Karina, une adolescente. Là aussi, on a un monde assez clos au départ, même carrément étouffant, on va dire, malgré la beauté de l'endroit. Et puis, on a une héroïne qui, petit à petit, se libère, s'émancipe, ou en tout cas fait l'effort pour ça, et qui, justement, voilà, va aussi essayer de découvrir le vaste monde, le plus vaste monde, on va dire.
Oui, c'est un peu comme la même chose, elle a cette épée de Damoclès, elle n'a pas des visions, mais elle a des musiques dans sa tête, dans un monde où la musique est complètement interdite. Et donc, si jamais elle est reprise à chanter ou à exprimer quoi que ce soit qui ressemble à une chanson, elle sera elle aussi mise à mort dans des situations d'une façon pas très rigolote non plus. Et sa seule façon de survivre, c'est de fuir pour découvrir que finalement, au-delà de l'interdiction de la musique, elle est dans un monde très oppressif où on a le droit de rien, en fait. On n'a pas le droit de s'aimer. Dans une autre partie de l'île sur laquelle se passe l'histoire, toute la deuxième partie avec les neutres, on n'a pas le droit de s'aimer, on n'a pas le droit de se toucher, on n'a pas le droit de faire de la musique, on n'a pas le droit de s'exprimer par aucune manière artistique. Il y a un règlement intérieur très strict. Si jamais on fait un pas de côté en dehors de ce règlement, les choses se passent mal. Et elle a besoin de sortir de ça. Elle a besoin de briser les chaînes de ce règlement pour pouvoir exister. Et elle va découvrir qu'elle n'est pas seule. Donc au fur et à mesure de l'histoire, elle rencontre d'autres personnes qui, pour d'autres raisons, sont comme elle et ont besoin de sortir de ses limites pour pouvoir exister telles qu'ils ont envie d'exister.
On est en plus dans une vraie allégorie de l'adolescence, pour le coup.
Ah oui, là, on est vraiment aussi bien dans le choix de qui on veut devenir, pas seulement mentalement, mais physiquement, puisque dans ma deuxième partie, j'ai des personnages qui sont neutres, donc ni homme ni femme, ils naissent neutres, et à 18 ans, ils doivent choisir s'ils veulent devenir homme ou femme. Donc on va leur injecter une partie des gènes qui leur manquent pour pouvoir se transformer et devenir l'homme ou la femme qu'ils veulent devenir. Donc c'est un choix personnel, c'est une réflexion sur toutes les 18 premières années de leur vie pour savoir ce qu'ils veulent devenir. C'est une forme d'affirmation de son identité. C'est vrai que là, j'ai voulu sortir un peu des normes de la société, de se dire quand on est fille ou quand on est garçon, on va avoir des gros clichés. Tiens, c'est bien un truc de garçon, tiens, c'est bien un truc de fille. Là, il n'y a pas. Ils sont ni filles ni garçons. Et c'est leur réflexion personnelle et leur choix qui va les amener sur le chemin de l'identité sexuelle qu'ils veulent acquérir au fur et à mesure. Donc on est vraiment dans la transformation de qui on veut devenir mentalement, de qui on veut devenir physiquement, de qui on veut devenir dans la société, des choix qu'on doit faire de façon importante pour le reste de sa vie. Et tout ça, ça va avec l'éclatement de ces chaînes qui empêchent d'aller au bout de ses choix entièrement.
On est dans une société très répressive, qui est assez paradoxale, puisqu'on est sur un atoll qu'on pourrait qualifier de paradis sur Terre.
Hein. Oui.
Au moins géographiquement parlant, on aimerait tous y être, ou presque. Sauf qu'effectivement, quand on voit un peu comment on y vit, d'un seul coup, ça change quand même un peu la vision des choses. Entre ce mur dont on ne sait pas vraiment de quoi il protège ou de quoi il sépare, et puis ces règles très, très oppressantes. C'est intéressant aussi ce paradoxe qu'il y a dans cet univers finalement assez positif par rapport à ce qu'on peut lire habituellement dans des dystopies.
Moi, je voulais jouer sur ce contraste. Ils sont sur une île paradisiaque, sable blanc, eau turquoise, palmiers, cocotiers et tout ce qui correspond à la belle carte postale du paradis sur Terre qui nous fait rêver. Et ils vivent un enfer. Donc je trouvais que c'était intéressant de mettre en opposition ces deux visions, de se dire que ce qui crée le paradis, c'est pas forcément l'eau turquoise et le sable blanc, mais c'est la façon dont on y vit. Et là, en l'occurrence, de toute façon, ils se rendent même plus compte qu'ils sont sur paradis, parce qu'ils vivent là depuis toujours et ils connaissent rien d'autre. Donc c'est leur quotidien. Mais voilà, c'est juste... les lieux sont beaux. L'homme a réussi à noircir tout ça par son étroitesse d'esprit, par son intolérance, etc. Et donc, c'est montré que finalement, l'enfer ou le paradis, c'est pas une plage ou des gens qui supportent pas de vivre en ville ou des choses comme ça. C'est comment on vit, c'est comment on peut s'exprimer et comment on peut être libre ou pas qui va créer l'enfer ou le paradis.
Alors, c'est pareil chez Stéphane Plateau. Quand on commence le roman, on est vraiment dans un décor, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai envisagé, mais absolument grandiose et somptueux, ce fleuve qui traverse ce qu'on peut imaginer être une grande forêt et puis ça commence par un coup de théâtre, c'est la rencontre d'un homme attaché, flottant au gré du courant, attaché parce qu'il aurait pu être accroché simplement à un arbre comme à une planche de salut, mais non, il y est attaché, ce qui change quand même un tout petit peu la donne. Sur l'impression qu'on peut avoir, parce qu'on se dit que c'est pas lui qui s'y est attaché tout seul.
Oui, c'est la première impression qu'on peut avoir parce qu'il a les poignets attachés et une branche qui passe dedans. Est-ce qu'il s'y est attaché tout seul ou est-ce qu'on l'y est attaché, ça c'est autre chose.
Cet univers... assez majestueux dans lequel on va évoluer pendant toute la remontée et même j'imagine dans les prochains tomes on y sera encore, même si on voit que vers la fin ça commence déjà à changer et à évoluer. C'est aussi quelque chose de très intéressant d'essayer voilà, de le visualiser finalement pour le lecteur.
Ben, c'est vrai que ça part d'un amour de la nature aussi et d'un amour des grands espaces. Moi, je suis un amoureux de la montagne. Je reviens du parc de la Sainte-Croix où on a passé une nuit dans une cabane, dans un arbre avec ma compagne. C'était vraiment très chouette. Et je passe un certain temps maintenant à observer les animaux pour essayer de les décrire. Donc il y a cet amour des grands espaces, mais il y a aussi avant tout une histoire qui est centrée sur l'humain. Puis alors les grands espaces, ça permet aussi de laisser libre cours à toute une fantaisie qui serait presque de l'ordre de la science-fiction dans la création d'une faune et d'une flore. On voit dans la deuxième partie du bouquin là, les piliers de Torun qui sont des arbres carnivores d'une manière que je vous laisse découvrir.
Oui, puis on a tout un bestiaire assez particulier quand même. Hein. Par moment, on se retrouve dans des situations où il y a des grenouilles, je crois, à un moment qui se multiplient à grande vitesse. Il y a des cochons aussi qu'on croise,
ouais.
Un peu agressifs. Donc il y a toute une animalité, on va dire, très présente dans le roman.
Oui, c'est parce que quand on retourne aux sources, si on veut vraiment imaginer un monde qui soit un monde médiéval, l'animal a une part très importante. C'est pas encore quelque chose qui est complètement soumis, c'est encore une force sauvage qu'il faut dompter, qui n'est pas tout à fait contrôlée. Au Moyen-Âge, il y avait énormément de cochons errants à certaines périodes, notamment pendant quand la peste avait décimé des villages. Et donc, il était connu qu'il y avait des bandes de cochons errants qui étaient autrefois des cochons domestiques, qui causaient des dégâts, qui déterraient les cadavres, qui mangeaient les os. Et c'est un peu ça que j'ai voulu mettre en scène avec la harde noire dans le roman.
Elle est un peu plus nombreuse qu'une simple bande quand même. Hein,
là, ils sont vraiment très nombreux parce qu'ils sont menés par un pâtre qui est une force ancienne et qui est quelque chose de particulier.
Alors, on va revenir sur le personnage justement de ce garçon dont on va apprendre qu'il s'appelle Manège, puisque c'est le titre, mais qui donc a été découvert un peu par hasard au gré des flots. C'est un personnage sur lequel on se pose énormément de questions, et on n'est pas les seuls, puisque c'est justement toute la démarche des explorateurs qui vont tomber sur lui par hasard, qui finalement s'interroge beaucoup à son sujet, d'autant qu'il n'est pas très disert au début.
Oui, c'est un petit cachetier, hein. Mais le narrateur, le barde, est aussi un petit cachetier. C'est vrai que c'est un des thèmes du livre, quand je parlais des thèmes adultes, c'est les relations en temps de guerre, comment des gens qui pourraient être amis en temps de guerre, qui sont faits pour être amis en temps de guerre, se retrouvent à se cacher des choses et à se méfier l'un de l'autre pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Et puis à côté de ça, ben, il y a le récit de vie de Manège qui va nous porter pendant une partie du récit. C'est un récit qui débute peut-être comme un récit, parce que finalement on a aussi un personnage qui au départ est enfant et puis adolescent, avec des choses qui se passent dans son adolescence, à savoir la recherche d'un père qu'il a abandonné devant le château. Et dans beaucoup de romans jeunesse, ou même de romans de fantasy en général, on aurait retrouvé un schéma plus classique où, quelque part, ce père l'a abandonné parce qu'il est l'élu et parce que le père est en proie aux forces du mal et que les forces du mal veulent détruire cet enfant. D'ailleurs, on voit que la Harde Noire veut effectivement détruire cet enfant. Et ce brave père, évidemment, n'a jamais voulu abandonner cet enfant, ne l'a fait que contraint et forcé. Or, dans la vraie vie, c'est pas toujours comme ça. Il y a des pères qui abandonnent leurs enfants parce qu'ils n'ont pas envie de s'en occuper. Et en l'occurrence, le semeur de feu, ici, qui abandonne son fils, on va dire que c'est une force de la nature, et en tant que tel, il a des ardeurs qui doivent s'épanouir. On suppose qu'il n'a plus beaucoup de femmes de sa race géante. Donc, il courtise des jeunes femmes et il a tendance à abandonner les enfants le long d'un château. Et donc, cette poursuite est peut-être vouée à l'échec, ou peut-être pas, mais il y a une volonté de se faire entendre de ce père qui, finalement, a abandonné l'enfant, pas du tout alors qu'il y était contraint.
Là encore, comme on a vu avec Karina et Estelle, on a finalement dans cette partie de l'enfance et jusqu'où il grandit, il y a une grande solitude aussi chez Manège, parce que son état, on l'appelle le bâtard hein, dans sa famille, en tout cas ses frères qui ne l'aiment pas beaucoup l'ont surnommé comme ça, qui pose quand même des questionnements. Puis est-ce qu'on peut se fier vraiment au récit de Manège ? Il y a aussi ça qu'on peut se demander. Mais en tout cas, on sent quand même dans ce qu'il raconte une grande solitude aussi.
Mais c'est quelqu'un qui est confronté à une différence très forte. C'est aussi toujours le thème de la différence. Et puis à un héritage qui pourrait être... c'est comme chez Estelle, j'ai un don, ouais, super, je suis différent des autres. Mais finalement, ce don, il est plus embêtant qu'autre chose. Il faut apprendre à le maîtriser. Et je pense que les personnes qui ont en eux un feu plus fort, qui ont quelque chose, une plus grande sensibilité, une plus grande force, peuvent mettre plus de temps à arriver à un équilibre. Et là, en l'occurrence, il a en lui une force qui menace de le détruire s'il n'arrive pas à la contrôler.
On voit qu'il cherche aussi des repères adultes. Il y a ce personnage qui vit dans une grotte vers lequel il va se tourner, avec qui il va discuter, qui va finalement lui enseigner un certain nombre de choses. Des choses que peut-être il n'avait pas dans sa famille d'adoption finalement, où la relation avec le père est toujours un peu particulière, un peu compliquée.
C'est un personnage qui est adulé par sa mère adoptive, mais il a ceci de particulier qu'il est assez intelligent pour s'en rendre compte, et il a cette envie d'échapper à cet amour étouffant d'une mère qui est beaucoup trop pesante, qui est finalement castratrice, puisque quand ses autres frères vont se placer comme on fait au Moyen-Âge, comme page auprès d'un chevalier pour apprendre le métier des armes, déjà vers 12 ou 13 ans, lui, il reste calé à la maison, il reste calé au château.
Estelle, on a aussi, dans La Voix des Oracles, un personnage ambigu, étrange, qu'on a du mal à cerner et qui sera d'ailleurs le personnage central du deuxième tome, hein, c'est Enoch, qu'on voit évoluer lui aussi au fur et à mesure, en ayant du mal finalement à savoir si c'est un gentil ou un méchant, pour prendre des archétypes très classiques.
Bah, disons, de toute manière, je crois très peu aux gentils et aux méchants. Donc voilà, ça... Et a fortiori, quand on est dans un monde qui a quand même une grosse base historique, c'est un monde qui, quand même, pour une partie, à un moment, était un peu le nôtre. Et on n'est pas dans un monde où il y a des gentils et des méchants, on est juste dans un monde où c'est plus compliqué. Et c'est vrai qu'une des choses intéressantes aussi, dans un roman que j'aime beaucoup en tant que lectrice et donc que j'essaye d'amener en tant qu'auteur, c'est un peu, ça rejoint ce dont parlait Stéphane, c'est faire des jeux de masques. Donc, quand on est dans le point de vue d'un personnage et qu'il en regarde un autre, on ne sait jamais si ce qu'on a de l'autre personnage est vrai ou pas, à quel point l'autre personnage se livre sincèrement, à quel point il garde des choses pour lui. Enoch aussi, de toute manière, c'est un personnage qui d'abord se présente comme moitié barbare, moitié romain. Et en fait, on s'aperçoit que le père romain, son père, il dit que son père est romain, mais finalement les choses sont peut-être aussi plus compliquées que ça. Pourquoi est-ce qu'il prétend que son père est romain ? À quel point lui-même en est convaincu ? Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui déjà a du mal à se positionner par rapport à sa propre histoire et à l'histoire qu'il raconte sur lui. Et donc, pour cacher ça, il s'est inventé un personnage. Il est maquilleur, ce qui est un métier d'homme beaucoup à l'époque. Et maquilleur aussi, ça veut dire souvent donc, un peu séducteur, peut-être un peu empoisonneur, un peu intrigant. Et donc, il s'est coulé dans ce personnage-là, deux séducteurs de province, en gros. Et un personnage qui même est irritant au début, notamment pour Tia, la première fois qu'elle voit, elle a envie de lui donner des claques, et beaucoup de lecteurs ont envie de lui donner des claques aussi au début. Moi aussi, j'ai eu envie de lui donner des claques au début.
Même vers la fin. Hein.
D'accord, merci. Et donc c'est vrai que oui, voilà, c'est... Et simplement, peu à peu, cette carapace qu'il a se fissure, et derrière, on découvre quelqu'un de plus complexe, et c'est aussi quelqu'un qui justement porte les complexités d'une époque. Une époque qui essaye d'être, dans certains cas encore, la haute antiquité, qui essaye d'être ce fantasme d'empire romain, puissant, cultivé, donc, et en même temps mourant déjà, et qui à d'autres endroits est déjà le Moyen-Âge et est déjà parti vers autre chose. Et Enoch, il est un peu entre les deux, il incarne toutes les tensions et toutes les ambiguïtés de cette époque, beaucoup malgré lui au départ, et puis peu à peu, il va accepter cette ambiguïté-là. En acceptant cette ambiguïté, finalement, il va devenir lui-même, et c'est l'un des grands enjeux du tome 2 qui est pour beaucoup centré sur Enoch.
Il y a un côté très théâtral chez Enoch, ce qui, quand on vous connaît un petit peu, n'est pas très surprenant, et qui finalement rejoint un peu ce qu'il y avait dans Porcelaine. Déjà, c'est un personnage qu'on pourrait presque voir issu de l'histoire de Porcelaine, toute proportion et tout univers gardé, parce que même son métier, ne serait-ce que de maquiller, on est déjà justement dans ce côté de savoir voilà, qu'est-ce qui se cache sous la poudre, qu'est-ce qui se cache, où est le réel finalement par rapport à l'image.
Mais, disons, c'est une facilité de se mettre un masque pour surtout pas présenter ce qu'on est vraiment au monde et au-delà pour ne pas regarder ce qu'on est vraiment soi-même. Enoch, quelque part, il est maquilleur parce que ça lui permet de jamais se regarder lui-même dans un miroir, mais de tendre toujours le miroir aux autres et quelque part d'échapper à ça, d'échapper à cette confrontation avec soi-même. Et oui, il s'est créé un personnage donc très théâtral, très extraverti, parce que ça lui permet justement d'échapper à la noirceur qu'il a tout au fond de lui, et au-delà même, au-delà de cette noirceur, au fond de lui, il a peut-être quelque chose de beaucoup plus beau et beaucoup plus puissant que ce qu'il présente au monde, mais quelque part, assumer aussi, justement, c'est ce dont parlait Stéphane, assumer ses qualités peut être plus difficile parfois qu'assumer même ses défauts, et c'est ce à quoi Enoch est retrouvé confronté. Il a quelque chose au fond de lui qui brûle, et qui brûle très fort, et il ne veut pas le voir, parce que quelque part, être un héros le terrifie beaucoup plus qu'être un salaud, en fait, donc il se crée ce masque de salaud pour surtout pas être le héros qu'il pourrait être. Et évidemment, ça va pas tenir la distance.
Du coup, il incarne un pendant parfait à Tia, parce que lui, il a ce côté roublard, rusé, et finalement bien plus expérimenté dans le monde du quotidien que Tia n'a pas, en tout cas au début de l'action. Il a un côté très protecteur aussi pour elle, finalement.
Enfin, il a un côté très protecteur, oui et non, parce que quand même, leur première rencontre, c'est un peu elle qui lui sauve la mise, quoi.
C'est vrai.
Finalement, voilà, disons, ils ont une relation qui est... que lui aimerait tourner en sa faveur, mais qui finalement tourne beaucoup plus en faveur de Tia que ce qu'il voudrait. Et d'ailleurs, ça fait partie des petits soucis qu'il a le long de la route.
Karina, il y a aussi dans la Symphonie des Abysses un personnage ambigu dont on ne sait pas trop quoi penser. C'est celui de Braden, qui est l'ami, l'amoureux du personnage principal à Brielle, et en même temps c'est le pire des salauds lui aussi, en tout cas dans toute la première partie lui aussi va encore évoluer, et sa personnalité un peu se craquelle au fur et à mesure, mais c'est quand même voilà, on sent que c'est un personnage à double visage.
En fait, à travers ce personnage, j'avais envie de montrer la folie qui peut saisir les gens de vivre dans cet enfermement et dans ces contraintes absolues. Alors qu'il est censé représenter la loi, il la subit autant que les autres, même s'il a l'impression de la maîtriser parce qu'il en détient les clés. Et il est complètement fou, en fait. Donc, cette folie, elle finit par se voir au fur et à mesure. Et elle est le symbole de cette folie sous-jacente qu'il y a chez d'autres personnages.
C'est ce que j'allais dire, c'est un mot qui revient beaucoup, le mot folie, dans le roman.
Bah, pour moi, je ne peux pas imaginer. On est comme dans un monde clos. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, on est sur un atoll circulaire. Donc, il y a comme un donut, en fait, il y a un rondeau au milieu. Enfin, dans des proportions, on est quand même dans un mini-océan. Hein, il faut 5 jours de bateau pour traverser ce rondeau. Donc, on est sur un atoll circulaire avec un rondeau au milieu. Cet atoll s'appelle l'anneau. Et il est cerclé d'un mur infranchissable. Donc, les gens vivent dans un monde complètement clos. Ils sont enfermés à double titre, enfermés par ce mur et enfermés par ces règlements qui sont des murs supplémentaires à leur existence. Et je ne peux pas envisager qu'on puisse vivre comme ça sans devenir taré, quoi. Alors, c'est une belle prison, comme je disais tout à l'heure, c'est un lieu paradisiaque, mais ils subissent au quotidien un enfermement psychologique total. Abrielle, l'héroïne, finalement... elle arrive à s'en sortir parce qu'elle s'échappe, et peut-être qu'elle aurait frôlé la folie aussi si elle était restée plus longtemps à retenir les musiques qu'elle avait dans la tête. Mais Braden, lui, il s'échappe pas. Il a cette responsabilité d'être le gardien en chef et donc de devoir faire respecter le règlement. Il s'en gargarise et à la fois ça le détruit complètement de l'intérieur. Et il sait jamais, il est tout le temps à cheval entre l'amour et la haine pour Abrielle. L'amour parce qu'elle est différente et la haine parce qu'elle est différente. Et donc elle représente à la fois l'interdit et le danger. Et il, dans l'histoire, il pète complètement les plombs, quoi. Lui-même, je crois qu'il sait plus ce qu'il est. Et voilà, et je trouvais que c'était intéressant, mais j'aime bien...
Surtout sa position par rapport à la musique lui-même, puisqu'on a l'impression vraiment qu'il est dans la volonté absolue de respecter l'interdit. Et en même temps, il y a une espèce de forme de séduction incroyable lorsqu'il entend Abrielle chanter. Il y a une espèce d'attirance irrésistible.
Voilà, mais c'est toute c'est toute son opposition. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aura jamais la force de se défaire. On a l'impression que finalement, des deux, c'est lui le plus fort. Il est grand, il est costaud, il est gardien en chef, il a des responsabilités. Et Abrielle, à côté, paraît plus fragile. Elle a déjà été enfermée à l'âge de 4 ans parce qu'elle avait chanté. Elle a toujours cette peur de faire un faux pas et d'être à nouveau jetée en prison. Elle a perdu son père. On la regarde toujours un petit peu. On l'appelle la réminiscente du village puisqu'elle a eu ces réminiscences de chansons qui lui viennent à l'esprit. Donc c'est a priori elle la plus fragile. Qui paraît la plus faible des deux, et c'est pourtant elle qui va avoir la force de briser ses chaînes pour sortir de cette folie, pour sortir de cet enfermement. Et lui n'a pas la force, il n'a pas la volonté de le faire, et ça le détruit.
Je parlais d'allégorie tout à l'heure, il y en a une deuxième là, c'est l'allégorie de l'artiste aussi finalement.
Oui, j'adore parler des autres formes d'art. La musique et la peinture, c'est des moyens d'expression dont j'ai parlé dans d'autres romans. Et pourtant, je suis ni musicienne et encore moins peintre. La musique, j'en ai fait un petit peu au conservatoire, mais alors je ne sais pas du tout dessiner. Mais c'est des moyens d'expression qui m'intéressent et je trouve que c'est intéressant de faire des mises en abîme, on va dire. Quand j'ai écrit ce livre, on n'était pas du tout dans la situation mondiale actuelle. Aujourd'hui, quand on voit qu'il y a encore des régions du monde où il y a des gens qui empêchent les femmes d'être ce qu'elles veulent être, qui brûlent des instruments de musique, qui brûlent des livres, qui détruisent des sites historiques, j'avais l'impression, il y a des gens qui disent que la Symphonie des Abysses, c'est une dystopie, même si je ne l'ai pas forcément écrit en me disant « je vais écrire une dystopie », ça a été rangé dans cette case-là, parce que les gens aiment bien des cases. Moi, je m'en fiche un petit peu des cases. Mais finalement, une dystopie, c'est censé se passer dans un futur plus ou moins lointain où les choses ont mal tourné. Voilà. Et je trouve que finalement, à travers ce livre, pour pouvoir défendre la liberté d'expression, à travers l'art et à travers toutes les choses qu'on a envie d'exprimer, bah, finalement, ça tombe bien aujourd'hui.
Mais même dans des quotidiens plus traditionnels, on sait très bien qu'il y a des familles où on a du mal à accepter qu'un enfant puisse avoir envie de faire une carrière artistique, par exemple.
Je le sais bien, oui. Moi, j'ai mon fils qui est en arts appliqués. Les gens disent, mais tu l'as laissé faire ça ? C'est pas un vrai métier.
Il fait quoi comme métier ?
Voilà. Je dis aux gens, mais je fais pas un vrai métier non plus. Donc, voilà. Donc, on est tous une famille de pas vrai métier. Tout va bien. Dans la famille pas vrai métier, je tire la mère, le fils. Tiens, petite carte. Donc, c'est exactement ça. Je pense que c'est toujours le sujet de trouver sa voix, de s'affirmer et de ne pas avoir peur de dire qui on est. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont peur d'exprimer qui ils sont, auprès de leur famille, auprès de leurs amis, le regard des autres, etc. Et je trouve ça dommage. Il y a ceux qui ont la force de le faire et qui en subissent aussi parfois des conséquences. C'est un peu tout ça dont je veux parler. C'est parler liberté à travers l'oppression, c'est-à-dire montrer tout le pendant. On est dans l'oppression totale, et qu'est-ce que c'est que la liberté quand on est face à cette oppression ? Donc il y a Abriel qui chante, il y a les neutres qui veulent s'aimer comme ils ont envie de s'aimer, avec la surprise de leur transformation et qu'est-ce que ça va entraîner comme conséquence. Dans la deuxième partie, on est dans un village où les noirs et les blancs ne vivent pas ensemble, ça ressemble à d'autres choses dans la réalité, et où le personnage est métisse. Donc il est ni chez les uns, il a pas le droit d'être chez les uns ni chez les autres, il est toujours entre ces deux.
Étranger partout.
Et à chaque fois, on est face à des personnages qui subissent la différence qu'ils ont. Abriel chante, ces deux neutres s'aiment alors que c'est interdit de s'aimer, ils se touchent, ils s'embrassent alors que c'est interdit de se toucher et de s'embrasser. Et Yal, dans la deuxième partie, il est métisse dans un monde où il faut être soit blanc, soit noir. Et je trouvais que c'était intéressant à travers ces métaphores, qui peuvent paraître un peu grossières, peut-être comme ça, mais de parler de toutes ces différences, toute cette affirmation de soi, et toute cette façon de dire « j'ai envie d'exister au même titre que les autres. J'ai la peau un peu café au lait, mais j'ai envie d'exister. J'aime mon compagnon, mais j'ai envie d'exister. J'ai des musiques dans la tête, mais j'ai envie d'exister. Et j'ai envie d'exister comme je suis, pas comme on me dit d'être. » Et je pense que c'est des messages qui passent... Alors après, ils sont bien pris ou mal pris. Je sais qu'il y a des parties qui peuvent choquer certains. Mais c'est pas grave. Moi aussi, j'ai envie d'écrire et d'être qui je suis à travers ce livre.
Et le choc peut être salutaire, voilà. De toute façon. Stéphane, on a aussi un personnage très important dans Manège, c'est le barde, puisqu'on parlait de musicien à l'instant. Alors, peut-être que j'ai une vision un peu restrictive. Comment vous définiriez-vous le mot barde, d'ailleurs ?
Alors le barde dans l'Antiquité celtique, c'est un personnage qui appartient à la classe sacerdotale. En fait, c'est un druide, mais qui est gardien des traditions, qui est gardien d'un certain savoir, qui est aussi diplomate. Et le savoir, à l'époque, ne s'écrit pas, il se garde par oral, par la tradition orale. Et donc, il est mis en vers parce que travailler avec de la poésie, ça permet de mémoriser plus facilement les textes. Et donc, c'est ça qui mène vers la musique. Alors moi-même, évidemment... Étant guitariste, le barde me parle beaucoup parce qu'il y a ce lien vers la musique. Étant guitariste et conteur, il y a un petit peu de projection dans le personnage. Mais c'est aussi un personnage qui est un vrai idéaliste, mais qui est devenu avec l'âge assez réalpolitik. Donc réalpolitik, je veux dire par là qu'il est, il est réaliste et qu'il est prêt au besoin à sacrifier un bien pour un bien plus grand. Donc il n'y a pas une petite tache près sur son CV quand il s'agit d'arriver finalement à faire le choix le moins pire, par exemple.
Et c'est aussi celui qui s'est écouté finalement. Et là, en l'occurrence, c'est pour ça qu'on va lui confier Manèche.
Voilà, c'est aussi quelqu'un qui a une grande écoute et qui est fasciné par le légendaire, parce qu'il est le gardien des légendes, il est fasciné par le monde antique, le monde des géants, le monde des anciennes puissances. Et forcément, quand on lui met dans les mains un personnage qui se révèle très vite avoir un lien, avoir quelque chose en lui, il a envie de le découvrir. Mais c'est aussi effectivement quelqu'un qui sait écouter, qui s'intéresse à l'humain énormément. C'est quelqu'un qui a en lui la capacité de poser des actes finalement très nobles. On le voit lors de l'ascension de la colline quand ils sont poursuivis et qu'il va trimballer sur son dos, se blesser au risque de sa propre vie, alors qu'il a des doutes sur se blesser.
Oui, mais en même temps, c'est pas totalement désintéressé. Il y a quand même quelque chose derrière. C'est un curieux aussi, ce barde. Il sent bien dès le départ qu'il y a quelque chose qui le fait tiquer finalement, ne serait-ce que la manière dont ce blessé, dont on imaginait qu'il passerait pas la nuit, commence à se guérir tout seul finalement.
Oui, donc il est attiré par les légendes un peu comme une poule devant un mégot, et c'est peut-être ce qui va se perdre dans le récit de Manèche beaucoup plus longtemps qu'il ne le devrait, et on se demande parfois si Manèche ne joue pas de ça pour justement captiver le barde et s'arranger pour prolonger son récit sans en venir au fait, sans donner les informations que le capitaine voudrait lui faire donner.
Vous avez parlé du mot diplomate. On sent qu'il y a un prêté pour un rendu hein, par moment. Il y a vraiment, on sent que les deux sont aguerris en joutes orales et qu'ils sont capables de noyer les poissons de manière assez facilement.
Ce livre est un peu bâti autour d'un duo ou d'un duel entre ces deux personnages, Manèche et le barde. C'est une amitié qui se noue dans le respect mutuel, mais au milieu de petits coups fourrés innocents, ou peut-être pas si innocents que ça. On joue avec les cartes retournées sur la table parce que c'est la guerre, parce qu'il faut cacher ses atouts.
Et on ne sait pas trop à la fin finalement qui a vraiment mené l'autre par le bout du nez. À la limite, on se demande même s'il y a un vainqueur, le mot est peut-être un peu fort, mais s'il y en a un qui a pris le dessus sur l'autre finalement.
Mais
on aura peut-être les réponses dans le deuxième
thème. Même si c'est le cas, je ne vous le dirai pas pour tous ceux qui ne l'ont pas lu et qui le liront peut-être plus tard. Mais en tout cas, c'est une relation qui a ceci de particulier, c'est qu'elle est bâtie sur du sable, elle est bâtie sur des choses qu'on se cache, et en même temps, elle est profondément sincère. Et ces personnages se parlent à cœur ouvert sur des choses beaucoup plus intimes, en fait. Donc c'est ça le contraste qui me plaît, c'est on se cache des choses importantes et en même temps, on se parle de façon très intime.
Et parce qu'on imagine que ce barde, lui aussi, a quelques secrets qu'on n'a pas encore découverts. Hein.
Oui, ce barde a un passé assez... voilà.
Estelle, on a parlé beaucoup des personnages humains, même si Enoch encore, on peut se poser quelques questions à son sujet, mais c'est aussi La Voix des Oracles, un roman où il y a une grande place laissée aux merveilleux, pour une raison assez particulière et très originale finalement, c'est qu'on est, comme dans cette période que vous avez évoquée, de la transition de l'Antiquité vers le Moyen-Âge, et finalement de la transition du polythéisme et du monde des esprits vers le monothéisme chrétien, où on va justement effacer toute cette partie du merveilleux. Ça veut dire aussi qu'il y a énormément d'interventions de ce merveilleux dans l'histoire, et que le rôle, même à défaut finalement de Tia, est d'être une interface, un lien entre ces deux mondes, le monde humain et le monde du merveilleux.
Oui, alors disons, c'est vraiment aussi cette période, la période où les anciens dieux, les dieux du monde païen, quittent peu à peu la scène, puisque l'Empire est devenu chrétien, mais où en même temps, quand même, il y a des gens qui continuent encore au moins à y croire, à ces dieux-là. Et donc vraiment, l'avantage de faire de la fantaisie, c'est qu'on peut incarner ces dieux, on peut incarner ces créatures dans le monde qu'on est en train de faire. Et ce que j'adore avec tous les dieux, ou les petits dieux, ou les créatures, donc des panthéons romains, étrusques, grecs, c'est que c'est des dieux qui sont bourrés de défauts. Qui sont vraiment très humains justement, donc qui peuvent être aigris, viveurs, vengeurs, donc, et qui sont des personnages très hauts en couleur. Justement là, ils ont un peu déchu en plus par rapport au temps de leur splendeur, mais cette déchéance quelque part les rend à la fois plus touchants et plus intéressants aussi à faire vivre. Et c'est vrai que Tia, par ses dons d'oracle et par des choses que je vous laisse découvrir, va très vite représenter un enjeu pour ce monde païen, c'est-à-dire qu'il y a des dieux encore qui essayent de revenir, qui essayent quand même de renverser la tendance et de renverser le christianisme, de recréer encore donc un univers païen. Et pour ça, ils pensent que Tia peut les aider, et donc certains essayent de mettre la main sur elle de manière plus ou moins gentille, plus ou moins sympathique, en lui voulant plus ou moins du bien. Et il y a aussi donc toutes ces forces-là qui sont à l'œuvre dans l'ombre, et toutes ces forces-là qui aussi agissent dans le roman autant qu'elles peuvent.
Avec la particularité, c'est que finalement, ce sont des personnages qui sont habitués presque à ces présences d'une certaine manière. En tout cas, c'est suffisamment lié à leur éducation et leur culture pour que ça soit quand même un peu surprenant par moment, mais c'est plus par rapport aux conditions des apparitions, on va dire, que ça surprend, que véritablement les phénomènes eux-mêmes, comme ça pourrait être le cas nous, si d'un seul coup on croisait, ce qui n'est pas impossible, un faune dans l'espace court.
Disons, c'est aussi une manière de voir le monde, c'est-à-dire vraiment les personnages de cette époque vivent dans un monde où encore c'est possible. C'est possible de croiser un faune, c'est possible donc d'avoir les chiens de la déesse des enfers qui rôdent dans la campagne la nuit et qui hurlent dans la campagne la nuit, par exemple. Donc non seulement c'est possible, mais même ils y croient vraiment. Et en même temps, c'est quelque part, comment dire, la manière dont... dont je vois le monde quand j'imagine en tant qu'auteur. Enfin, par exemple, quand je me promène, donc comme il y a une partie dans les Vosges, quand je me promène du côté d'Épinal, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un faune qui pourrait surgir à n'importe quel moment, de derrière tel ou tel bosquet, de derrière tel ou tel arbre. Donc finalement, c'est ça que je mets dans mes romans aussi.
Carina, il y a aussi, au-delà de la volonté, de la quête personnelle que suit Abriel, il y a aussi un moment où il y a l'envie de découvrir ce qu'il y a ailleurs, finalement, la prise de conscience que cet atoll n'est pas le seul monde existant, finalement. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très courant, hein, même si dans nos mondes actuels, on a l'impression parfois qu'on embrasse la totalité du monde existant en quelques clics. C'est beaucoup moins évident quand il s'agit d'y aller concrètement et réellement. Et il y a aussi... cette envie de découverte et cette curiosité qui est parallèlement à l'envie de pouvoir enfin exprimer le chant, qui grandit aussi chez Abriel.
Oui, c'est cette curiosité, c'est ce besoin de comprendre pourquoi. Pourquoi il y a ce mur, pourquoi il y a ce règlement, et pourquoi on les a enfermés là, et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Est-ce que de l'autre côté, on peut être plus libre que de ce côté-là du mur? C'est un peu... comme on parlait de la métaphore de l'adolescence, l'émancipation, le besoin d'aller voir au-delà des murs de sa maison et de sa famille et du monde un petit peu sécurisant qu'on peut avoir. C'est un mystère aussi, je pense qu'il fallait aussi qu'il y ait une motivation dans ce bouquin de savoir mais pourquoi tout ça, et que le lecteur ait envie de découvrir les réponses à toutes ces questions et trouve les réponses en même temps que les personnages. Trouver une justification à tout ça.
D'autant que ce mur, il a ses fondations très profondément enfouies.
Oui, alors, j'explique dans le tome 2. Il n'y a plus aucun mystère. On sait exactement pourquoi ce mur... Non, mais c'est important, parce que parfois, c'est gentil de mettre des choses et puis pas donner d'explication. Puis le lecteur se dit, ok, c'est bien gentil, mais comment il est arrivé là et pourquoi et machin, etc. Tout a une justification, tout a un sens, tout a une raison d'être. Le mur, il n'est pas juste là parce qu'il est tombé du ciel.
Boum, lisez le tome 2.
Voilà. Non, mais c'est important parce que... les raisons vont aussi donner un sens au poids du passé. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que je ne vais pas dévoiler tout, mais je pense que là, on se retrouve vraiment dans ce qui est le poids du passé. Qu'est-ce qu'on peut prendre de notre passé, de bon, qui nous sert pour pouvoir se construire, qui fait partie de nos fondations utiles et importantes pour nous soutenir, et qu'est-ce qui fait partie de ce passé négatif, on va dire, qui devient un poids, qui devient une contrainte, et dont on doit peut-être à un moment se libérer pour pouvoir sortir de l'état actuel et grandir et devenir un papillon. On va partir dans les métaphores papillonesques, tout ça. Et je pense que le mur est aussi, quand on va comprendre son explication et qu'on va comprendre pourquoi cet atoll existe, quel est son intérêt et dans quel but il a été construit et dans quel but, pourquoi on a enfermé les gens sur cette île, ça va être aussi la forme de se dire... en quoi le passé peut être un emprisonnement, lui aussi, et qui nous empêchent d'avancer dans l'avenir. Donc je pense que c'est aussi toutes ces symboliques qui sont importantes, et tous ces questionnements et ces curiosités. Justement, passer de l'autre côté du mur, c'est passer vers la liberté, mais c'est aussi passer vers l'avenir. Donc c'est beaucoup de symboles, beaucoup de choses importantes pour ces personnages.
Ce qu'on retrouve aussi dans Manèche, hein, ce poids du passé, parce qu'on sait qu'il y a une guerre plus au sud, une guerre civile, mais cette expédition qu'on suit finalement, on sait qu'elle a une mission particulière qui a pour objet de faire basculer le conflit. On peut imaginer ça comme ça, en tout cas c'est ce qu'on comprend plus ou moins à demi-mot, mais on n'en sait pas beaucoup plus finalement, ni sur les forces en présence, ni sur les raisons pour lesquelles il y a cette guerre civile. Par contre, on sent bien à certains détails, que ce soit à travers le récit de Manèche ou par d'autres interventions, que là aussi il s'est passé des choses avant qui justifient la situation dans laquelle se trouvent les personnages.
Oui, tout à fait. Il y a un passif qu'on va découvrir petit à petit. Beaucoup de personnages dans le roman sont des cachotiers. Le capitaine est un cachotier. Son second, c'est le barde. C'est notre narrateur. Le barde n'a pas le sentiment de connaître tous les replis de l'âme du capitaine. Il y a des choses qu'il ignore. Il ne comprend pas pourquoi le capitaine a fait venir à bord une femme et sa petite fille de 8 ans, la courtisane et sa fillette. Ça, il ne le sait pas. Et le barde est également cachotier avec le lecteur. On a un narrateur qui dit « Je vais vous raconter mon histoire, mais finalement, je crois que je ne vais pas vous dire ce qu'on fait là et pourquoi on est là, parce que, voilà, c'est, vous comprenez, c'est secret militaire. » Donc, finalement, même le narrateur est cachotier. C'est quand même assez perturbant parce qu'on court le risque au cours du bouquin de se dire « Mais ce narrateur, mais finalement, quel salopard !» Donc, ou en tout cas, quel personnage discutable. Donc oui, les gens se révèlent au fur et à mesure. Et dans chaque tome, les gens vont continuer à se révéler.
Ce sera une trilogie, hein, je ne sais pas si on l'a dit.
Sera une trilogie, oui. Les personnages qui vont continuer à se révéler au cours des tomes, notamment dans le tome 2, on verra beaucoup cette femme qui est particulièrement mystérieuse, la courtisane, qui parlera du parcours de vie d'une femme dans une société traditionnelle quand même majoritairement dominée par les hommes, ce qui n'est pas forcément le cas de là où elle vient. On parlera beaucoup des relations de couple, mais dans les relations de couple, dans ce qu'elles ont de moins idéalisé. Je ne sais pas si vous avez lu Tristan et Iseut. C'est pour moi la plus belle histoire d'amour du monde parce qu'elle est beaucoup plus puissante que Roméo et Juliette, où finalement les personnages arrivent d'un état A à un état A prime, qui est d'être mort. Mais finalement, on très peu changé, ils sont amoureux et c'est tout. Dans Tristan et Iseut, on a quelque chose de beaucoup plus fin, où les personnages évoluent, où la relation de couple évolue, où elle passe de la passion à quelque chose qui est parfois plus de l'ordre aussi d'un certain équilibre, mais on a aussi cette complicité du couple, toutes les trucs et astuces dont les amants doivent user, qui font que cette ruse crée une complicité et qu'on a beaucoup d'amusement finalement, que les amants s'amusent ensemble, ce qu'on trouve assez rarement dans les histoires d'amour qui doivent forcément être tragiques, mais qu'on retrouve dans la vraie vie, enfin du moins je vous le souhaite, un amour où on rit, où on a des complicités, où on a des secrets. Eh bien, voilà, moi j'avais envie d'écrire une histoire qui parle aussi d'amour, mais là on est dans un réalisme, dans une autre forme de réalisme qui est un peu moins riant, qui est qu'un amour peut aussi dégénérer, et vraiment très mal dégénérer, et devenir une relation de pouvoir. Donc là aussi on sera dans des thèmes qui que vous pouvez tout à fait commencer à sentir et auxquels vous pouvez tout à fait vous intéresser, bande de jeunes chevelus, mais qui sont peut-être assez éloignés de ce que vous avez eu au départ envie d'entendre avec une belle histoire d'amour où tout va bien.
Merci en tout cas à nos trois auteurs, à Estelle, à Karina, à Stéphane. Vous avez atelier baston cet après-midi avec Fabien Seriti pour Le bâtard de Cossigan, qui donc sera le prix imaginal des lycéens que vous avez décerné. J'espère en tout cas qu'on vous a permis d'appréhender peut-être un peu mieux ou différemment les romans de la sélection, en tout cas un certain nombre de romans présents dans la sélection de cette année. Je le redis, franchement, vous aviez une sélection cette année qui était d'un très très haut niveau et de très grande qualité, parce qu'on n'a pas évoqué ni Fabien, que vous verrez cet après-midi, ni François Baranger, ni Jean-Luc Marcastel, mais dans l'ensemble, vous aviez vraiment une sélection à la fois très diverse et très très intéressante, donc j'espère que vous en avez profité à plein. Et à titre personnel, pardonnez-moi les auteurs qui sont là, mais je vous remercie et je vous dis bravo d'avoir choisi Fabien Seriti.